This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو جلوبال.
From CNN Radio 7.
من راديو داشا.
O Brasil quer se vingar.
Turquia, falta hora. Slava, Россия.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui en Iran avec Eric Valmire aux côtés des ONG du Sud. Elles affirment leur expertise par rapport à leurs consoeurs du Nord et leur disputent désormais même leur hégémonie. Dominique André nous en dit plus tout à l'heure. Mais tout de suite, direction Hong Kong.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Hong Kong qui connaît une vague de manifestations massives, déjà baptisée révolution ou mouvement des parapluies, puisque les habitants de la ville se protègent des jets de gaz au poivre avec ce simple ustensile. Alors ce n'est pas la première fois ces dernières années que les Hongkongais descendent dans la rue, parfois par centaines de milliers, mais c'est en revanche la première fois que la police réplique aussi fortement, suscitant la stupéfaction des protestataires et renforçant la mobilisation d'un mouvement civique et pro-démocratique. Paroles de manifestants dans les rues de Hong Kong, recueillies hier soir par notre correspondante sur place, Florence de Changy.
Ce gouvernement est pire que communiste. Et puis, ils ont arrêté les étudiants et aujourd'hui, ils vont les juger. Mais pourquoi ? Ils n'ont rien fait de mal. Et c'est pour ça qu'on est là, pour les soutenir.
On doit reprendre possession de notre espace civique, parce que cet endroit nous appartient. C'est notre maison. Nous n'allons pas aller ailleurs. C'est ici, chez nous.
Nous sommes juste des Hongkongais.
Ce n'est jamais arrivé à Hong Kong. Ce ne sont que des étudiants, ils n'ont pas d'armes, ils ne font rien de violent, mais la police, ou plutôt le gouvernement, a recours à des méthodes inacceptables pour régler le problème.
Ce ne sont donc que des étudiants, dit cet homme. La jeunesse est en effet dans les rues, c'est une des spécificités de l'événement. Le sinologue Jean-Philippe Béja enseigne à l'université Baptiste de Hong Kong. Il décrit à Dominique André l'atmosphère dans l'université aujourd'hui même et la mobilisation précisément de ses étudiants.
Ils sont extrêmement choqués par cela et ce mouvement a l'air en fait d'être une forme d'éducation d'une nouvelle génération. On avait vu ça dans les années 70 avec ceux qui sont devenus les démocrates. On a vu ça en 89 avec les participants de la protestation contre le massacre de Tiananmen. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui est là pour porter Hong Kong. Et dans cette identité, il y a l'exigence de démocratie. Je crois que c'est d'ailleurs regardé avec un grand intérêt de l'autre côté de la frontière. Et parmi les touristes chinois qui sont nombreux ici et qui vont être encore plus nombreux avec la semaine du 1er octobre, il y aura un certain nombre de gens qui viendront aussi faire du tourisme politique.
Nous sommes en ligne avec Florence de Changy. Bonsoir Florence, correspondante de Radio France et du quotidien Le Monde. Il est minuit 20 à Hong Kong. Quelle atmosphère dans les rues de la ville ce soir? Est-ce qu'il y a encore du monde dehors?
Il n'y a pas très longtemps, quand j'ai fait le tour de quelques hotspots, il y avait encore un monde absolument incroyable, aussi bien à Mong Kok, qui est de l'autre côté, donc qui n'est pas sur l'île de Hong Kong. Il faut traverser la baie de Hong Kong pour arriver de ce qu'on appelle le côté Kowloon. À Mong Kok, c'était absolument pas prévu qu'il y ait une mobilisation là-bas, mais elle s'est faite de manière spontanée. Admiralty, qui est un peu le headquarter des étudiants devant les immeubles du gouvernement, Causeway Bay, enfin partout et contre toute attente, une présence immense de gens qui arrivaient, mais une ambiance plutôt festive, détendue, solidaire, de la musique si nécessaire, enfin une belle ambiance.
La police anti-émeute s'est repliée dans le milieu de l'après-midi, a-t-on pu lire ici sur les différentes dépêches d'agence ?
Oui, en fait, la situation n'est effectivement pas la même à chaque endroit. Et ce qui complique considérablement les opérations de police, je crois, c'est qu'il y a beaucoup trop de fronts. Donc, ils peuvent toujours faire reculer les manifestants à un endroit. Ils vont réapparaître ailleurs, soit par une autre rue, soit en prenant le métro et en allant ailleurs. C'est pour ça que la police, pour le moment, aujourd'hui, suite aux violences qu'il y a eu, et ils ont été énormément critiqués pour ça, ont l'air de vouloir laisser faire.
Ouais.
Jusqu'à cette heure-ci, ils laissent les gens faire la fête. se plaindre, chanter, etc.
J'ai l'impression que la réaction policière a été un choc extrêmement brutal pour les Hongkongais. Je dirais peut-être même plus brutal que si l'on voit ici à Paris des CRS disperser une manifestation. Est-ce que je me trompe ?
Ah non, mais pas du tout. C'était pour eux, la seule idée des gaz lacrymogènes, c'était, je ne vais pas dire la fin du monde, mais presque. Et ils se sont d'ailleurs équipés, vous avez sans doute vu des images, comme des bonshommes de neige, mais ils avaient, ils ont les lunettes de ski, ils ont le poncho, ils ont tous en poche des bouteilles d'eau, voire des bouteilles de lait pour se laver les yeux au cas où. Donc ils avaient la hantise que ça se passe, et ça a eu lieu. Et ça les a effectivement bouleversés. Et beaucoup de gens disaient aujourd'hui que si la police n'avait pas réagi de manière aussi brutale, il y aurait beaucoup moins de soutien spontané de la population plus large, disons, pas spécifiquement les étudiants.
Oui.
La violence de la police a vraiment motivé les foules parce que c'est absolument pas dans la façon de faire locale.
Florence, on lit sur Twitter, alors je ne sais pas si c'est de l'angélisme ou non, mais comme vous êtes sur place, que vous pouvez circuler dans la ville de Hong Kong, mention est faite à plusieurs reprises du civisme des manifestants, notamment du fait qu'il n'y a pas eu une dégradation, pas eu une vitrine brisée.
Ouais, non, mais ça, c'est... Enfin, je pense qu'on ne le dira jamais assez, et moi-même, je suis ahurie de leur comportement. Effectivement, c'est remarquable, et je n'ai jamais vu ça. Ils sont non seulement, effectivement, ils sont non violents. Hein, c'est vraiment, ça a été dit depuis le début. Ils le répètent régulièrement. Si quelqu'un prend spontanément le micro, c'est pour rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas se battre, qu'il ne faut à peine opposer de la résistance si on devait se faire arrêter. Mais en plus de ça, ils ont effectivement cette attitude extraordinairement civique de s'entraider. Il y a eu énormément de dons qui ont été faits et donc chacun s'occupe à distribuer à qui veut manger, boire, ce qu'on appelle des cold patch, parce que comme il fait très chaud, on se met ça sur le front pour avoir moins chaud, toutes sortes d'équipements. Et non, c'est absolument remarquable et j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs dans le monde. Qu'ils sont inspirés. Ils sont inspirés, effectivement. Ils ont des espèces de grandes valeurs morales, en fait, qui les guident et qui les inspirent et qui les fait tenir.
Florence, quand on regarde les dates, on s'aperçoit qu'en 1997, la Chine récupère ce qui était une colonie, à savoir Hong Kong. Donc, les gens qui ont 17-20 ans et qui sont aujourd'hui dans la rue sont des gens qui n'ont jamais connu la période précédente, la période de la colonisation par les Anglais. Et pourtant, ils semblent vouloir défendre et peut-être même approfondir encore plus l'héritage démocratique de cette époque.
Oui. C'est assez remarquable, mais et d'ailleurs, c'est quand même aussi un reproche qu'on pourrait faire à l'ancien pouvoir des Britanniques, parce que ça n'aurait pas été très compliqué pour eux de mettre au point un système de sorte que la démocratie qui est en fait promise dans la Constitution soit en place. Mais c'est vrai que cette jeunesse a des aspirations extraordinairement démocratiques. Hong Kong n'a jamais été démocratique, mais l'impression que j'en ai en leur parlant et en les entendant et en les écoutant, c'est que c'est vraiment le fruit de l'éducation.
Oui.
Ils sont, et d'ailleurs, leurs professeurs le disent, dès le début de ce mouvement, il y a eu plusieurs centaines de professeurs d'université qui ont signé une espèce de charte en disant « on est fiers de nos étudiants, on va les soutenir ». Et c'est effectivement ce qu'ils disaient tous, c'est la première fois pour nos étudiants qu'ils ont l'occasion de mettre en pratique ce qu'on leur apprend, c'est-à-dire la pensée critique, la liberté, la lutte pour les droits civiques, etc. Et c'est vraiment le discours qu'ils ont.
Alors, vient de nous rejoindre en studio le sinologue François Gonnement. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po, le titre de votre dernier livre chez Odile Jacob, « Que veut la Chine de Mao au capitalisme ?»« Que veut la Chine ?» Point d'interrogation, c'est important à mentionner. Tout de suite, une question pour vous, une dernière pour Florence de Changi. On entendait déjà dans la communication qu'il a eue tout à l'heure avec Dominique André. On l'entendait parler d'une identité hongkongaise. Est-ce que vous la voyez et à quoi elle ressemble ?
Elle est très très nette, l'identité hongkongaise. C'est quelque chose que de loin on ne perçoit pas, mais un Hongkongais, il ne faut surtout pas confondre un Hongkongais et un Chinois, a fortiori depuis disons à peu près 2 ans, où les tensions sont quasiment quotidiennes entre les touristes chinois qui viennent à Hong Kong et les Hongkongais. C'est un long dossier que on peut pas développer maintenant, mais c'est une réalité. Et les Hongkongais sont chaque année, il y a des sondages réguliers, sont de plus en plus nombreux à se dire Hongkongais chinois, de moins en moins presque inexistants à se dire chinois, et quelques-uns à se dire chinois hongkongais. Mais non, l'identité hongkongaise, c'est une réalité.
Merci beaucoup Florence de Changy. Je rappelle que vous êtes la correspondante de Radio France et du quotidien Le Monde à Hong Kong, et qu'on a pu entendre un certain nombre de témoignages de Hongkongais manifestant dans la rue tout à l'heure grâce à vous. Quel regard, François Godemont, portez-vous sur ce qui se passe à Hong Kong ? Est-ce que ça vous a surpris, cette brusque émergence de la rue ?
Ce qui surprend, c'est effectivement l'extrême jeunesse des manifestants. Le fait que l'activiste le plus connu, celui qui a été arrêté et relâché, grâce d'ailleurs à des juges de Hong Kong qui se sont inscrits en faux contre le gouvernement, il a 17 ans. Autrement dit, il est né au moment du rattachement. Il ne peut par définition pas avoir connu ce qu'il y avait avant. Le mouvement a été anticipé il y a 2 ans par un premier mouvement de la jeunesse scolaire sur le thème « On veut nous abrutir avec des nouveaux manuels ». C'est-à-dire le début d'un endoctrinement ou d'un changement de ligne,
bourrage de crâne,
des manuels hongkongais. Donc c'est avant tout une révolte qui pointe la contradiction entre une jeunesse qui est en fait parfaitement libre et hédoniste et consumériste dans un pays dont il faut souligner non seulement qu'il est aussi riche que la France, mais que la partie éduquée est plus riche, si vous voulez. Ceux qui poursuivent des études, parce qu'il y a une sélection assez sévère à Hong Kong, sont des gens aisé. Vous regardez d'ailleurs la carte, le mouvement démocratique à Hong Kong par rapport à ceux qui sont, disons, plus dans l'acceptation des factions pro-Pékin, c'est un peu le centre de Hong Kong contre les périphéries. Donc il y a ce côté-là moderne, globaliste, ne comprenant pas pourquoi ils auraient à se plier au système de la République populaire. Et de l'autre côté, ben, vous savez, ça illustre le vieux proverbe politique qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens.
Alors, qui va en sortir et aux dépens de qui ?
La Chine populaire, elle a abattu ses cartes le 31 août. Depuis 1996, on se disait comment ça allait se terminer, cette transition démocratique. Il y avait un lente évolution vers une élection généralisée des députés. Il y a eu un nouveau cran franchi en 2012. Et puis pour le chef de l'exécutif, qui jusqu'ici est désigné essentiellement par l'Assemblée nationale, par le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, qu'est-ce qu'on allait faire ? On a d'abord eu la promesse d'une élection au suffrage universel qui semblait absolument contradictoire avec le système en Chine populaire.
Oui, mais allant parfaitement, en revanche, dans le sens de ce qu'est Hong Kong.
Allant dans le sens de ce que serait Hong Kong si Hong Kong était libre et indépendant, s'il n'y avait pas eu quelque chose.
Donc là, il y avait une première contradiction très forte.
Et le système s'est rattrapé en imposant la sélection des candidats. Même comme ça, j'insiste sur le fait que c'est quand même un progrès par rapport au système précédent. Et quand vous regardez les plateformes des différents partis politiques, beaucoup n'ont pas osé, même dans le camp démocrate, beaucoup n'ont pas osé envisager auparavant la sélection, pas uniquement par le suffrage universel direct. Hong Kong est obligé de tenir compte de son environnement. Ça clash, il y a d'autres raisons que votre correspondant soulignait. Hong Kong, c'est très inégalitaire. Hong Kong, il y a un mur de l'argent maintenant sur l'immobilier qui est phénoménal. Hong Kong, c'est le paradis de jeu, si j'ose dire, de toute la néo-bourgeoisie chinoise et au-delà, de millions de personnes qui viennent faire leurs emplettes et qui envahissent la colonie. Et donc, il y a un petit peu, je dirais, Hong Kong a toujours été anticolonial. Le Hongkongais moyen n'aimait pas non plus beaucoup les Anglais, pour tout dire.
Mais ça aurait pu rester, comme on le disait en France au 19e siècle, enrichissez-vous et abandonner démocratie, réformes populaires et autres. On aurait pu rester dans ce que vous décrivez, savoir l'une des plus grandes places financières au monde qui continue à faire du business, qu'importe le régime politique.
Oui, mais je pense qu'il faut faire la part de l'angoisse et l'angoisse politique sur ce qui se passe au centre en Chine. Pékin, la société chinoise n'a jamais été aussi calme, entre guillemets, depuis 2 ans. Xi Jinping, le numéro un, a tout remis sous contrôle. La censure est plus forte que jamais. La répression des débats est plus forte que jamais. Ce qui se passe au Xinjiang est infiniment plus grave que ce qui se passe à Hong Kong. On abat des centaines de personnes après des attentats, certes, et dans une situation tendue. On vient de condamner à la prison à vie un intellectuel ouïghour qui est un professeur d'économie dans une université pékinoise qui réclamait très modérément et modestement les droits de la communauté ouïghour, absolument pas l'indépendance ou le séparatisme. Il est condamné à la prison à vie. Je pense que les gens de Hong Kong, cette jeunesse, perçoit le fait que quelque part, l'avenir est bouché, que quelque part, ça peut aller que vers plus de contrôle et pas moins de contrôle.
Alors, jusqu'à présent, François Godemont, comment analysez-vous la réaction de Pékin ? Elle est assez difficile à cerner, je la dirais à la fois impassible et d'une violence contenue, c'est bien ça ?
Hyper embarrassé, visiblement, car le statut de Hong Kong existe, l'accord s'applique avec les Britanniques, d'ailleurs. Les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ce n'est rien à côté de ce que ça pourrait être. On a vu des manifestations avec des bougies, avec beaucoup plus de gens en mémoire de Tiananmen qui hantent les esprits à Hong Kong. Et ils savent donc très bien que s'ils commencent à utiliser la vraie violence, parce que jusqu'ici, il faut quand même souligner que la police de Hong Kong se comporte relativement bien.
Oui, elle fait du maintien de l'ordre.
Elle lance des grenades lacrymogènes.
Je parlais des CRS tout à l'heure, c'est relativement comparable.
C'est du même ordre. C'est du même ordre. On n'est absolument pas dans ce qui se passe avec la police militaire chinoise en Chine. C'est un avantage d'habiter à Hong Kong. Passerait-elle un cran ou bien ferait-on intervenir, comme on l'a parfois dit, la police militaire chinoise, ou pourquoi pas même les troupes de l'armée populaire stationnées à Hong Kong, qu'on débouche sur l'inconnu complet. Une catastrophe, on change complètement. À mon avis, le régime ne veut absolument pas l'employer. Il espère que ça va se tasser, mais il ne peut pas perdre la face non plus sur la décision, sur la nomination. Je ne pense pas qu'il puisse renvoyer dans ses foyers le chief executive, le numéro un de Hong Kong, qui a fait nommer en 2012. Ouais,
sans se déjuger lui-même, ouais, bien sûr.
Et donc, on est dans une situation qu'il va falloir débloquer avec les partis existants, avec une consultation, probablement. Je pense que la solution, s'il y en a une, elle se trouvera autour du comité chargé de sélectionner les candidats, de l'ouvrir un peu plus, parce que c'est un des enjeux de cette élection future du chief exécutif.
Oui, l'idée, c'est que vous allez pouvoir élire au suffrage universel les personnes dont on aura donné les noms pour qu'elles puissent se présenter. C'est ça ce qui est contesté par les manifestants.
Bien sûr, l'idée, c'est une démocratie semi-contrôlée qui donne aux électeurs la possibilité de refuser quelqu'un, mais qui ne leur donne pas la possibilité de choisir n'importe qui, si j'ose dire.
Donc vous dites, François Godemont, que Pékin n'a pas intérêt ni sans doute envie d'aller vers une crise d'ampleur à Hong Kong, mais est-ce qu'on peut imaginer, vous n'êtes pas devin là encore, mais est-ce qu'on peut imaginer un scénario autrement plus explosif ?
On peut l'imaginer, d'une part parce que Hong Kong, il y a une caisse de résonance de Hong Kong dans le Guangdong, à côté, dans la province du Guangdong, qui est la province la plus avancée aussi. Reportez-vous 2 ans en arrière, j'en parlais dans mon livre, on avait des paysans du Guangdong à 30 km de Hong Kong qui manifestaient pour leurs droits au sol, pour les indemnités, etc. Ça avait fait une rébellion spectaculaire que le régime avait su, avec lequel le régime avait su composer. Depuis, c'est le silence radio, la chape de plomb. Tout ça peut reprendre, si vous voulez. Il y a une influence sur Taïwan, où il y a eu un mouvement de jeunesse considérable, le mouvement dit des tournesols, qui là est plutôt un mouvement contre la délocalisation vers la Chine, contre la concurrence par le bas. Si vous voulez, de la Chine, plutôt que sur la démocratie à proprement parler. Mais tout ça sont des choses importantes. Et s'il perd la face sur la périphérie par rapport à des jeunes de Hong Kong, que va-t-il faire en Chine même ?
Jusqu'à quel point, François Godemont, peut-on pousser la comparaison entre Tiananmen et ce qui se passe aujourd'hui à Hong Kong ? Est-ce que ça n'est pas parti de la même manière, au fond, c'est-à-dire dans la joie, l'euphorie et la légèreté ? Ou là, c'est un abus total que je fais en comparant trop brutalement les choses ?
Je pense que ce n'est pas une comparaison. Tiananmen découle d'une lutte profonde à l'intérieur même du Parti communiste chinois et d'une prise de position radicale pour une transformation de régime. Les manifestants de Hong Kong ne réclament rien qui concerne la Chine, pour commencer. Ils réclament juste une application plus favorable des règles négociées en 1997. Ça reste extrêmement modéré. Ce qui n'est pas modéré, c'est l'expression. Effectivement, là, la jeunesse prend les mêmes formes qu'en 1997. Et le propre de la jeunesse, c'est de s'imaginer que l'emploi de la force n'existe pas.
Votre confrère Jean-Philippe Béja, sinologue, nous disait tout à l'heure que la semaine dans laquelle nous nous trouvons n'est pas n'importe quelle semaine, c'est une semaine touristique et une semaine de fête nationale en Chine, que ça voyage beaucoup pendant cette semaine, les gens voyagent énormément et notamment vers Hong Kong, et qu'ils viendront faire là très certainement un peu de tourisme politique, pour reprendre son expression. La circulation peut se faire de cette manière-là aussi entre la Chine en tant que telle et les événements de Hong Kong, puisqu'on sait que réseaux sociaux et autres sont parfaitement sous contrôle.
Ils ne peuvent pas être parfaitement sous contrôle. Ils le sont dans l'immédiat et dans l'expression spontanée des tweets ou dans la résonance, si vous voulez, immédiate. Mais ce qui se passe à Hong Kong a un écho. Il y a trop d'échanges pour que ce ne soit pas le cas.
Et donc, il ne peut pas y avoir un
confinement. Mais cela dit, n'exagérons pas. De même qu'il y a une identité hongkongaise par rapport au continent, entre guillemets, de même, les Chinois de Chine populaire considèrent les gens de Hong Kong comme des privilégiés. Et par conséquent, n'ont pas forcément une sympathie débordante pour leur cas. Donc il y a encore des coups d'arrêt possibles, si vous voulez. Ce qui se passe, c'est qu'on a construit tout ce compromis sur une ambiguïté totale et que l'ambiguïté est en train d'éclater.
Qui a construit ce compromis ?
Ah bah évidemment, les Anglais avec les Chinois. Mais honnêtement, ce qu'on peut reprocher aux Anglais, c'est ce qu'on a dit à Chris Patten à l'époque, la démocratie du dernier quart d'heure. C'est-à-dire s'être réveillé bien tard. Mais il n'y a aucun doute que les Anglais n'avaient aucun moyen de faire passer ce qu'on a appelé à l'époque le train express, le sous-train, le train qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les mêmes députés resteraient en place et qu'on aurait une transition plus rapide vers un régime démocratique électif. Les Chinois n'en voulaient pas, ils l'ont arrêté. Le compromis a été, on verra étape par étape. Ça n'a pas été la stagnation complète, parce qu'effectivement, ils travaillent par toutes petites touches. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais évidemment qu'ils ne veulent pas passer à une transition intégrale à la démocratie.
Merci François Godeman. Que veut la Chine ? Votre dernier livre aux éditions Odile Jacob, sous-titré « De Mao au capitalisme ». Nous étions également en ligne tout à l'heure avec Florence Dechangy, correspondante de Radio France et du Monde, sur place à Hong Kong. On en reparlera bien entendu toute cette semaine dans Un jour dans le monde. Li Xiangyan, Plum Blossom, et à suivre Éric Valmire sur le rôle possible de l'Iran dans la crise moyen-orientale. Il est 18h39. Xiang Yang, Plum Blossom. Et puis, d'un mot, cette dernière minute, Washington qui appelle les autorités de Hong Kong à faire preuve de retenue. Comme je vous le disais, nous reparlerons bien évidemment dans Un jour dans le monde sur France Inter de la situation sur place dans les jours qui viennent. Il est bientôt 18h42. Partout ailleurs, bonsoir Eric Valmire.
Bonsoir Nicolas.
Et cette question ce soir, quel rôle peut ou doit jouer l'Iran dans la crise qui embrase le Moyen-Orient ?
Avec déjà une déclaration d'Ahmad Reza Bourdastan, qui est le commandant de l'armée de terre iranienne, qui a annoncé hier, attention, si l'État islamique se rapproche un peu trop de la frontière ou passe la frontière, évidemment, nous les repousserons et nous les repousserons en profondeur en Irak, sous-entendu, pour bien les démanteler, car actuellement, le groupe de l'organisation islamique, de l'État islamique, se trouve dans la province de Diyala, qui est une province irakienne qui longe la frontière iranienne. Il y a là un danger. Alors, les Occidentaux sont plutôt ravis de cette déclaration, parce qu'ils tendent la main, vous le savez, à Téhéran, en vue d'une coalition pour lutter contre les groupes terroristes. Sauf que Téhéran semble plutôt vouloir faire cavalier seul, c'est-à-dire que dans cette crise-là, il s'agit plus d'aller soutenir l'armée irakienne d'un point de vue logistique, d'un point de vue de formation, d'un point de vue matériel également. Et pour le moment, de faire de la sourde oreille à la main tendue par l'Occident. Car c'est vrai que pour le moment, il y a deux terrains qui sont un peu ambigus, qui sont que les Occidentaux peuvent être alliés avec l'Iran face à l'État islamique, mais qu'en même temps, ils se retrouvent adversaires sur le terrain de la Syrie. C'est ce que nous explique fort bien Gilles Kepel, qui est le grand spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, rencontré ce week-end à Toulon, en marge de la fête du Livre du Var.
Il se trouve que juste après l'offensive de Daesh, dit État islamique, entre guillemets, sur Mossoul et sur la partie sunnite de l'Irak, je me trouvais à Téhéran et dans une réunion avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, qui est parti dans une diatribe extrêmement virulente contre les pays du Golfe, qu'il a accusé d'être ceux qui avaient donné le financement à Daesh, et cela pour affaiblir M. Maliki, le dirigeant chiite à l'époque de l'Irak, et bien sûr allié de l'Iran. L'Iran s'est engagé sur le terrain contre des islamistes sunnites. En Irak, il combat dans le même camp que les Américains, mais en Syrie, les forces pro-iraniennes, c'est-à-dire le Hezbollah, qui fournissent l'infanterie à l'armée de Bachar al-Assad, d'une certaine manière, le Hezbollah libanais, lui combat du côté de Bachar al-Assad que combattent les Occidentaux. On voit bien toute cette ambiguïté. Alors aujourd'hui, la donne a un peu bougé, puisque d'une certaine manière, l'Iran est contraint de fonctionner avec les Occidentaux pour éloigner le danger Daesh. Mais en même temps, l'Iran apparaît aux yeux d'un certain nombre d'Occidentaux comme le régulateur possible de la région. Est-ce que l'Iran y est prêt ? À quelles conditions ? Tout dépend de qui sont les interlocuteurs en Iran. Est-ce que ce sont des interlocuteurs radicaux ou est-ce que ce sont des interlocuteurs pragmatiques ? Parce que le deal avec l'Occident, c'est aussi quelque chose qui va avoir des conséquences intérieures en Iran. En Iran, quand on y va, on voit bien que c'est un pays où il y a une élite qui reste très bien formée. Ils ont, malgré l'embargo, même s'ils ont eu de l'aide coréenne, pakistanaise et autres, les Iraniens ont été capables de trouver une filière d'ingénieurs iraniens pour construire l'arme nucléaire. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, vous avez une société qui reste très cultivée, très, très éduquée, dont on ne sait pas encore si elle va rester contrôlée par des mouvements qui sont favorables à l'exportation de la révolution iranienne ou si au contraire, ce sont les pragmatiques pro-occidentaux qui l'emporteront après le deal. Et le deal est aussi un enjeu, le deal nucléaire est aussi un enjeu d'équilibre interne. Et ça, pour l'instant, bien sûr, c'est trop tôt pour le dire.
Les Occidentaux ont-ils raison de penser que l'Iran est la clé dans la résolution du problème du groupe islamique Daesh ?
La réintroduction de l'Iran dans le jeu est une question fondamentale. Si l'Iran n'est pas réintégré dans le jeu, on ne voit pas comment il peut y avoir de solution durable à la crise du Golfe.
Et la question, Eric, du nucléaire iranien, ce dossier-là pense très très lourd.
Forcément que au bout de 8 jours de négociations à New York, on n'a pas eu mais le début d'une piste optimiste qui pourrait aboutir à un accord. Or, les termes sont assez clairs d'un accord, en tout cas d'un point de vue occidental. L'accord définitif doit garantir le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions contre Téhéran. Et pour le moment, ça ne marche pas très bien, puisque visiblement, Téhéran ne peut pas garantir que ses recherches sur le nucléaire ne concernent évidemment qu'une partie civile, quoi, un but civil. L'uranium faiblement enrichi alimente des centrales électriques, mais enrichi à un niveau élevé, il peut fabriquer une bombe. Et vous savez que c'est un dossier terriblement sensible pour Israël. Et donc, évidemment, tous ces points-là viennent s'ajouter, en plus de ceux que vient de mentionner à l'instant Gilles Kepel, et fait que, évidemment, les négociations avec l'Iran sont très compliquées et que tout ça va se jouer, finalement, à l'intérieur de l'Iran. Vous avez les gardiens de la Révolution, le guide, qui ne veulent pas entendre parler de l'Occident. Et puis, vous avez une sorte de fonctionnaires, de diplomates qui grouillent un peu dans le ministère des Affaires étrangères, qui eux sont plutôt favorables à cette alliance avec l'Occident. Mais on voit bien que c'est un dossier complexe qui va demander du temps. Or, le temps, Nicolas, est justement très compté.
Éric Valmire, merci.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
La fabrique du Nouveau Monde. Bonsoir Dominique André.
Bonsoir Nicolas.
Les ONG du Sud, elles existent évidemment, elles sont de plus en plus expertes et elles viennent concurrencer leurs consoeurs du Nord.
Oui, et ce soir on met en valeur l'appel d'un homme, Jean-François Mattei, médecin, ancien ministre de la Santé, qui a toujours rêvé de travailler dans l'humanitaire. La vie, on le sait, est têtue et les rêves insistent. Il prend la présidence de l'ONG La Croix-Rouge française de 2004 à 2013, l'une des plus grandes ONG du monde. Et après 10 ans de terrain, de catastrophes comme le tsunami, il revient en lançant un appel aux ONG occidentales. N'est-il pas temps de passer la main aux ONG du Sud pour qu'elles prennent elles-mêmes leur destin en main, en tout cas le destin des populations qui souffrent? Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi, disait Nelson Mandela. Ben Jean-François Mattei adhère totalement à cette pensée. Il est persuadé que les humanitaires occidentaux doivent changer, laisser la place à une nouvelle action humanitaire du XXIe siècle.
Les méthodes de l'humanitaire changent parce que l'humanitaire dans ses missions reste le même. Toujours aider à nourrir ceux qui ont faim, apporter de l'eau à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui ne le sont pas et soigner ceux qui sont malades. Mais aujourd'hui, l'humanitaire occidental qui a fait un travail extraordinaire dont il peut être fier pendant des décennies doit progressivement passer la main aux pays africains qui bénéficient de l'aide aujourd'hui mais qui désirent assumer eux-mêmes l'action humanitaire pour leur propre population.
Quand il y a une crise comme Ebola, on a besoin d'humanitaire étranger, des grandes structures.
Bien entendu, mais vous prenez un cas particulier où on pourrait prendre aussi le tremblement de terre. Il est évident qu'Haïti attendait la sécurité civile et les pompiers français, l'armée française et d'autres pays, bien sûr.
La Syrie, par exemple.
Et pour Ebola. Mais alors en Syrie, c'est encore autre chose. Finissons sur Ebola. Pour Ebola, on a besoin de soignants, médecins, paramédicaux, parce qu'il s'agit d'une urgence vitale. Et donc, c'est un cas particulier qui rejoint le cas de la Syrie, où il y a la guerre, on est dans de l'humanitaire de conflit, on voit effectivement la difficulté d'accès.
Mais dans quel cas concret, faut-il donner une chance à ces humanitaires locaux de pouvoir exercer, pratiquer leur métier et prendre leur destin en main?
Eh bien, écoutez, dans la lutte contre le sida, nous l'avons fait avec la Croix-Rouge française. On a créé des unités de lutte contre le sida. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après quelques années de formation, d'entraînement, les équipes sont africanisées et elles se prennent totalement en charge au point que ces unités ont rejoint les hôpitaux publics de l'État. Il faut transmettre notre savoir, il faut accompagner, il faut conseiller et il faut petit à petit se retirer sur la pointe des pieds, à moins qu'on nous demande expressément de rester dans un but bien précis. Mais il faut laisser la décision aux personnes des pays concernés.
C'est intéressant et important, Dominique, cette idée que l'humanitaire occidental n'est plus aujourd'hui la référence.
Oui, comme de nouvelles puissances émergent dans le monde, eh bien, on a de nouvelles ONG qui émergent aussi au Sud. C'est donc, on peut dire que l'action humanitaire est un véritable tournant. Donc, je vous renvoie à un livre que publie Jean-François Mattei dans quelques jours, L'humanitaire à l'épreuve de l'éthique, et tous les renseignements sur ce livre sur notre site France Inter.
C'est aux édition LLL, les liens qui libèrent. Merci Dominique André. Il est 18h51. À suivre l'édito d'Arnaud Leparmentier. J'écorche son nom. Il va nous dire pour qui voter à la présidentielle brésilienne. Marianne Faithfull.
To decipher the whole of this unholiness, I have no doubt he will figure it out someday. Kalu, Kalu, Kale. Then the sparrows will sing on the boulevard again, and the corridors of power will be walked by thoughtful men. Near South End and Grace, that mythical beast will surely fade away. To master the helm, they cannot be seduced by this candy floss techno hell. They put over the hell, and a fresh breeze fills the sails. Kalu, Kalu, Kale. Hello. A child breaks the ice and peers into the hidden depths to try to untangle the whole of this unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Kalu, Kalu, Kalu. Kalu.
Et c'est une journée spéciale Marianne Faithfull sur France Inter. Pascal Clark la recevra ce soir à partir de 21h dans son émission Alive. Il est 18h55.
Dans l'Afghanistan, le
Hamas, quel est le point le plus chaud
d'État islamique en Syrie.
On file à Tokyo.
Bonsoir Nicolas.
Bref, l'Europe a choisi de déclarer la guerre
alors
aux aspirateurs.
Et c'est l'édito d'Arnaud Leparmentier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Monde. Ce soir, vous avez fait votre choix dans l'élection présidentielle brésilienne. Vous votez pour la socialiste Marina Silva. contre Dilma Rousseff, car vous voulez sortir le Parti des Travailleurs.
Oui, notre choix est fait pour dimanche prochain. Nous voulons que la présidente sortante s'en aille et donc nous votons pour la verte socialiste évangéliste Marina Silva qui a 56 ans. Alors, Nicolas, nous ne subirons aucun reproche de votre part. Pas de machisme, toutes les deux sont des femmes, pas d'engagement partisan. Toutes les deux sont de gauche, pas d'insensibilité. Elles ont toutes les deux souffert. L'une, Dilma Rousseff, sous la dictature. La seconde, dans les plantations d'EVA, quand elle était enfant. Les deux brésiliennes sont au coude à coude pour l'élection présidentielle, donc qui se tiendra dimanche. Et elles semblaient jouer cette consultation en faveur de Dilma Rousseff jusqu'à ce que le candidat socialiste Eduardo Campos meure d'un accident d'avion en plein mois d'août. Donc sa numéro 2, Marina Silva, qui devait prendre ce même avion, y a vu, je cite, un signe de la divine providence. Elle a donc remplacer Campos au pied levé, avec pour slogan les dernières paroles du défunt « On ne va pas laisser tomber le Brésil ». Alors, personne n'a vraiment osé dire du mal de Dilma Rousseff jusqu'à présent.
Donc vous vous y mettez.
Donc je m'y mets. Elle est l'héritière de Lula, qui dirigea le Brésil de 2003 à 2011. Lula, c'est le rêve de gauche sud-américain, la nouvelle icône mondiale depuis la mort de Mandela. Celui qui sut ne pas tomber dans les excès du vénézuélien Chavez et qui réussit à sortir sa population, une très grande partie en tout cas de la pauvreté. Il a éradiqué la faim, réduit des deux tiers les inégalités, permis l'émergence d'une classe moyenne de 40 millions de personnes, combattu l'inflation, dopé la croissance, j'en passe. Ce temps du Brésil rayonnant est depuis longtemps révolu. On l'a vu avec les émeutes un an avant la Coupe du Monde de football. Les Brésiliens protestaient contre la vie chère, demandaient plus d'infrastructures, plus d'éducation, plus de santé. On le sait aujourd'hui, le Brésil est à l'arrêt. Sa croissance a même été négative au premier semestre. Alors, que s'est-il passé ? En fait, Lula, à la fin de son mandat, puis Dilma Rousseff ont eu tout faux. Depuis la grande crise mondiale de 2008, le Brésil a décidé de tout faire pour soutenir la consommation intérieure. Dilma Rousseff a exigé de la Banque centrale qu'elle baisse ses taux d'intérêt. Elle a réduit les impôts pour soutenir la consommation, notamment les achats d'automobiles. Donc toute cette manipulation, ça a fait quoi ? Revenir la maladie mortelle de l'Amérique latine, l'inflation. Pour la masquer, Dilma Rousseff a subventionné les prix à l'énergie, maintenu la devise brésilienne à un niveau trop élevé. Le vent du protectionnisme souffle au Brésil. Résultat, les entreprises n'investissent plus. La compétitivité du Brésil se dégrade. Le pays est en déficit. Bref, Dilma Rousseff ressemble de plus en plus à sa voisine argentine, Cristina Kirchner, qui fait elle aussi n'importe quoi en économie. Donc nous choisissons Dilma Rousseff, dont la vie ressemble à un conte de fées. Elle récoltait le caoutchouc dans les plantations d'EVA, faillit mourir intoxiquée par le mercure des chercheurs d'or, s'est convertie au protestantisme quand elle était un peu plus âgée. Et lorsqu'elle était au gouvernement Lula, elle s'est violemment opposée à Dilma Rousseff parce qu'elle faisait la part trop belle au groupe agro-industriel. Donc maintenant, Dilma Rousseff, Marina Silva est parfaite. Elle a mis de l'eau dans son vin, de l'eau libérale. Pour elle et pour
ça, ça vous plaît. Mais ça
me plaît, oui. C'est là que vous voyez la chute et vous me voyez arriver. Pour l'autonomie de la Banque centrale, elle est pour la rigueur budgétaire, pour moins d'interventionnisme d'État. Et vous regardez à Brasilia, les marchés oscillent en fonction des sondages. Ils s'envolent dès que Marina Silva progresse. Ils ont raison, parce que le saut dans l'aventure, ce n'est pas faire le pari de Marina Silva, c'est prendre le risque de continuer avec Dilma Rousseff. Le Brésil a besoin d'une alternance.
À voter. Merci Arnaud Leparmentier. Bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne dans une vingtaine de minutes ce soir sur le Sénat.
Oui, sous la révolution thermidorienne, on l'avait baptisé Conseil des Anciens. Quoi de neuf au Sénat ? Il a été renouvelé de moitié hier. Le Front National y a fait son entrée pour la première fois. La Haute Assemblée a rebasculé à droite et la gauche a subi sa troisième défaite électorale depuis le début de l'année. Mais au-delà de l'alternance, les questions demeurent autour de l'autre chambre du système parlementaire français. À quoi sert-elle ? Faut-il la réformer. J'attends vos propres questions sur le sujet au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux.
Hashtag Telson pour le réseau social Twitter et franceinter.fr si vous voulez poser des questions par mail et par internet dans 20 secondes 19h.